bonne nouvelle d'après Luc, lecture suivie de l'évangile de Saint Luc dans une traduction transposition de Vincent-Paul Toccoli, salésien de Don Bosco.
Je l'ai dit et répété depuis plusieurs émissions, il va y avoir une relation inversement proportionnelle entre la diminution des Juifs qui vont suivre Paul dans les villes qu'ils vont traverser, d'une part, et au contraire, l'augmentation des païens qui sont séduits par ce que Paul et Barnabé racontent de Jésus de Nazareth et de ce qu'il faut faire pour suivre sa voie, comme on disait encore à l'époque, sa voie, son chemin. Terme repris à l'heure actuelle par surtout le bouddhisme, la voie. C'est un chemin de vie d'abord, avant d'être une religion, avant d'être un système. C'est un chemin de vie, c'est une façon de vivre, way of life, un chemin de vie. Seulement, si la proportion des adhérents, j'allais dire, à la foi au Christ change d'origine, c'est-à-dire qu'elle n'est plus a priori croyante en Dieu dès le départ, elle n'est pas juive avec un monothéisme très très étroit, qu'elle était de plus en plus polythéiste au départ, tous ces païens qui adorent toutes sortes de dieux, etc., va se poser une question très grave dont l'épisode que nous allons lire va rapporter les circonstances, c'est-à-dire eux qui sont juifs, Barnabé et Paul, savent d'où ils viennent. Ceux à qui ils parlent savent d'où ils viennent aussi, mais ils viennent de tout à fait ailleurs. La question est de savoir s'il faut passer nécessairement par le judaïsme pour pouvoir avoir accès au christianisme. Voilà des noms que c'est nous, enfin qui relèvent de notre propre invention. Il n'y avait pas de christianisme à l'époque. Il y avait des juifs qui croyaient en Jésus-Christ. Et le problème est cela, puisqu'ils étaient juifs eux-mêmes, certains se posent la question de savoir s'il ne faut pas devenir juif, qui est la continuité, en fait, vers ce qui va devenir le christianisme. L'épisode est tout à fait significatif de ce que je viens de dire. Écoutons-le.
L'affaire de la circoncision. L'épisode dont j'entame la relation suit en fait une présentation exemplaire d'un ensemble d'événements plus ou moins dispersés et donc plus complexes, mais qui tous tendaient à remettre en question l'ouverture de l'Église aux païens et à leur culture propre. Cette affaire de la circoncision, élément éminemment symbolique de toute la tradition juive depuis Abraham, ne risque pas moins que de refermer, peut-être définitivement, la porte que l'Esprit Saint, avec Pierre à Césarée, avait entrouverte, puis résolument ouverte, aux étrangers, aux non-juifs, à tous les peuples de l'Empire. La question capitale se posa pratiquement de la façon suivante, circoncision. Oui ou non ? Certains fidèles juifs, issus du pharisaïsme, donc circoncis, descendirent de Judée pour endoctriner les frères d'Antioche. « Si vous ne vous faites pas circoncire, et si vous ne suivez pas la règle de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvé. » Ainsi, fondamentalement, la question de la circoncision signifiait « Comment être sauvé ?» Si c'est impossible sans la circoncision et sans la loi de Moïse, à quoi sert donc la foi ? Le conflit qui en résulta provoqua des discussions assez graves qui opposèrent Paul et Barnabas aux gens de Jérusalem. Paul soutenait vigoureusement qu'il fallait rester comme on était au moment d'embrasser la foi nouvelle. Il tenait pas à remettre en jeu une pratique missionnaire acquise, approuvée par Barnabas au nom de Jérusalem et déjà largement pratiquée. Mais les Jérusalémites pieusement leur enjoignèrent de monter trouver les apôtres pour être jugés sur cette affaire à propos de ce différend. C'est l'église d'Antioche qui accepta le voyage. La délégation passa par la Phénicie et la Samarie. Ils y racontaient la conversion des nations païennes, provoquant une grande joie chez tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis généreusement par l'Église, apôtres et anciens réunis, qu'ils informèrent de tout ce que Dieu avait réalisé avec eux. Ceux qui avaient tout déclenché intervinrent alors contre la délégation pour se tenir qu'il fallait circoncire les païens et leur prescrire d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent avec l'ensemble des frères pour examiner l'affaire. La discussion dégénérant, Pierre intervint. « Vous le savez, frères, c'est par un choix de Dieu que dès les premiers jours et chez nous, les nations païennes ont entendu de ma bouche la parole de l'Évangile et ont embrassé la foi nouvelle. Dieu, qui connaît les cœurs, leur a donné l'Esprit Saint à eux, tout comme à nous. Sans faire la moindre différence entre elle et nous, c'est par la foi qu'il a supprimé nos appréciations légales entre purs et impurs. Dès lors, pourquoi provoquer Dieu en imposant à la nuque des disciples ce joug de la loi que ni nos pères, ni nous-mêmes d'ailleurs, n'avons été capables de porter ? Encore une fois, la voix se fit encore plus ferme. C'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous le croyons, que nous avons été sauvés exactement comme eux. Le silence régnait sur toute l'assemblée. Puis on enchaîna avec Paul et Barnabas qui racontèrent tous les signes et prodiges que Dieu, par leur intermédiaire, avait accomplis chez les païens en n'exigeant d'eux que la foi. Jacques, à son tour, se leva. On sentit chez lui, sinon de la réticence, du moins un souci de compromis qui trancha avec la netteté des propos échangés jusqu'alors. « Frères, écoutez-moi. Siméon vient de rappeler comment Dieu, dès le début, eut soin de se choisir un peuple, lui, parmi les nations païennes, ce qui s'accorde parfaitement avec la parole des prophètes. Après cela, je reviendrai, je relèverai la tente de David qui était tombée. Je relèverai ses ruines et je la redresserai afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations qui ont été consacrées à mon nom, dit le Seigneur. Je suis donc d'avis à ne pas accumuler les obstacles devant des païens qui se convertissent. Prescrivons-leur simplement de s'abstenir des souillures de l'idolâtrie, par exemple les viandes provenant des sacrifices païens, de l'immoralité, entre autres les unions illégitimes aux yeux de la loi, de l'abattage non rituel, les animaux non saignés, et de l'homicide, bien entendu. Depuis des générations, toutes les villes ont leurs commentateurs des livres de Moïse, ne serait-ce que tous les sabbats dans les synagogues. Toutes ces interdictions d'ordre, avant tout rituel, paraissent bien avoir eu pour but d'éviter que les chrétiens incirconcis fussent, pour les frères juifs, une source de souillure, en particulier lors des repas communs. Ainsi, la solution que Jacques proposait n'étonnerait pas les convertis du paganisme qui connaîtraient ainsi les problèmes soulevés par la loi pour les relations entre juifs et grecs. D'accord, avec toute l'Église, les apôtres et les anciens décidèrent alors de choisir dans leur rang des délégués qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabas. Ce furent Judas, appelé Barsabas, et Silas, des personnages en vue dans la communauté. On leur confia de rédiger une lettre dans les termes suivants. Les apôtres et les anciens saluent les frères d'origine païenne qui se trouvent à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Nous avons appris que certains des nôtres étaient allés vous troubler et bouleverser vos esprits par leurs propos. Ils n'en étaient pas chargés. Nous avons maintenant décidé de choisir des délégués que nous vous enverrons avec nos chers Barnabas et Paul, des amis qui ont livré leur vie pour leur nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Judas et Silas pour vous communiquer de vive voix les mêmes directives. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne vous imposer aucune autre charge que ces exigences inévitables. Vous abstenir des viandes de sacrifice païens ou d'animaux non saignés, d'homicides et d'unions contraires à la loi. Si vous évitez tout cela, vous vous en trouverez bien. Adieu. » La délégation prit congé, descendit à Antioche où elle réunit l'assemblée pour lui communiquer la lettre. Sa lecture fut une joie réelle par l'encouragement qu'elle apportait. Judas et Silas, en prophètes pleins d'Esprit Saint, longuement et explicitement leur témoignèrent stimulation et soutien. Ils restèrent quelque temps, puis en leur souhaitant la paix, on les laissa rejoindre ceux qui les avaient envoyés. Pourtant, à la dernière minute, Silas décida de rester seul. Judas s'en retourna. Quant à Paul et Barnabas, ils demeurèrent à Antioche, vacant avec beaucoup d'autres activités d'enseignement et de prédication. La crise était surmontée, la porte de la foi restait plus que jamais ouverte aux païens, la parole du Seigneur pouvait reprendre sa marche.
Pourquoi est-ce que Silas a décidé de rester avec Paul et de ne pas rentrer à Jérusalem? Voici Silas et Barsabas qui montent donc comme délégués pour aller annoncer la décision du concile. Et avant de descendre, donc, il y en a un qui reste et l'autre qui part. On peut supposer qu'il devait souffler aux alentours de Paul et sur la communauté d'Antioche un air de liberté, d'ouverture, d'avancée que peut-être on ne connaissait pas à Jérusalem. Mais en tout cas, l'épisode qui vient d'être rapporté montre bien la difficulté. Elle est d'ordre des structures mentales d'une culture qui a appris à faire ceci et cela comme cela et qui ne peut pas a priori abandonner ses habitudes. Mais si elle met les habitudes avant l'essentiel, c'est-à-dire avant la foi, on n'avance pas. D'où il fallait cette explication. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est la formulation qui va être reprise. Vous avez entendu, l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de vous imposer. Il s'agit d'une décision prise justement, ce qu'on appelle ex cathedra, c'est-à-dire il a plu à l'Esprit Saint et à nous-mêmes, nobis atque spiritus sancto, l'expression existe encore.
C'était une bonne nouvelle d'après Luc, une traduction et un commentaire de Vincent-Paul Toccoli. Daniel Chavy a prêté sa voix pour la lecture. Merci et à bientôt.